1, 2, 1, 2, test, micro, microscopie, la société au microscope.
C'est Christophe, j'ai 42 ans et ça fait 15 ans que je suis dans la rue. Dans le 14e, à Porte d'Orléans, ils ont mis des grilles partout. Même la RATP, ils ont mis des grilles dans les escaliers, tout ça. Dans tout le quartier, ils ont mis des grilles. Comme ça, il n'y a plus des SDF chez eux là-bas. Nous, voilà quoi, on n'a pas d'endroit pour dormir, donc on squatte là où on peut. Même les foyers, le 115, on les appelle, il n'y a pas de place, Nous, on aime bien dormir au chaud, hein. Voilà quoi. 15 ans dans la rue, jamais un jour en prison. Ça va, hein.
Microscopie. Simon de Creuse, Aline Leclerc, Cyril Etienne, Édouard Zambeau.
Ça y est, l'hiver revient en France traditionnellement. Hein, comme tous les ans, nous n'allons donc pas tarder à reparler du sort réservé aux sans-domicile fixe. Faudra-t-il attendre le premier mort pour s'en émouvoir ? Faudra-t-il que, comme l'an dernier, un campement s'installe au cœur de Paris pour que les SDF soient visibles ? En tout cas, à n'en pas douter, il y aura cette année, comme la précédente et comme celle d'avant aussi, un plan d'urgence, des paroles d'indignation et de compassion. Pourtant, les sans-domicile fixe n'existent pas que l'hiver. Et il faut le dire, bien souvent, en dehors des périodes d'émotion, les pouvoirs publics font leur possible pour les rendre le plus invisibles possible, les éloigner des centres-villes. Bonjour et bienvenue dans Microscopie. C'est donc à la rencontre de ces indésirables que nous allons cette semaine. Des indésirables qui squattent les espaces publics des centres-villes, des indésirables qui occupent les couloirs du métro pour s'abriter de la pluie et du froid, ou qui stationnent à l'entrée des centres commerciaux quand ils le peuvent. Des indésirables que parfois, de manière brutale ou sournoise, les collectivités publiques ou privées essaient de faire fuir. Quelles sont les stratégies mises en place? Comment le mobilier urbain évolue-t-il? S'agit-il d'une démarche concertée? De quand date cette évolution de la société? Autant de questions que nous poserons à Daniel Terol, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 8, membre du laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS, et depuis près de 20 ans, hein, vous avez fait de la pauvreté et des sans-domicile fixe votre thème de recherche. Vous venez d'ailleurs de co-signer un livre aux éditions Priva, un livre qui est intitulé SDF, deux points, critique du prêt-à-penser. Alors nous reviendrons au cours des deux parties de cette émission sur ce prêt-à-penser que vous entendez décortiquer. Mais avant, je voudrais vous poser une question de sémantique. Pourquoi anthropologie urbaine et pas sociologie urbaine?
Ah, anthropologie urbaine, parce que depuis 1968, quand ont été publiés les premiers travaux dans mobilisant des techniques d'enquête de type ethnographique et des constructions d'objets de type anthropologique, travaux qui étaient par exemple ceux de Colette Pétonnet, qui travaillait sur à travers ces gens-là, qui était son premier ouvrage, le deuxième, On est tous dans le brouillard, qui a été récemment réédité, s'est mis en place, en effet, en plus de la sociologie urbaine, une démarche qui est plus typiquement anthropologique au niveau de la construction de l'objet. C'est-à-dire que nous partons, nous, du terrain, nous extrayons nos hypothèses à partir du terrain pour construire l'objet, alors que plutôt les sociologues, de par la connaissance même qu'ils ont de la société dans laquelle ils travaillent, ont tendance à formuler a priori des hypothèses pour aller les vérifier après sur le terrain. Ceci dit, je vous accorde que entre, par exemple, l'anthropologie urbaine que nous produisons et les travaux de, par exemple, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui sont plutôt des sociologues, je veux dire, il y a parfois très peu de différences, parce qu'il y a des sociologues, en effet, qui travaillent avec une micro-sociologie ou une ethnographie très fine pour nourrir leur terrain.
Ok, cette question sémantique est enlevée. Je vous propose, pour commencer, une illustration de l'évolution du mobilier urbain. Vous réagirez évidemment à cet élément sonore. Essayez de voir comment est-ce que les petits détails de l'aménagement de nos villes ont souvent une double utilité, une qui est visible et puis une autre plus cachée. C'est un reportage d'Aline Leclerc qui montre que là aussi, bien souvent, le diable se niche dans les détails.
Microscopie.
Excusez-moi, est-ce que vous savez ce que c'est que ces boules là qui sont là? Je sais pas.
Ah, je sais pas du tout.
Ah, je ne sais pas.
Aucune idée?
Aucune.
À quoi ça ressemble? Bah, je sais pas, à des boules. C'est juste comme ça, parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre peut-être, ils ont mis des boules.
Bah, elles sont de tailles différentes, puis c'est tout.
Ça, je ne sais pas trop, une sculpture.
Pour décorer?
Décoration? Je m'enfonce pas beaucoup, on vous dira en répondant ça. Je le sais, je suis du quartier.
Alors qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est pour empêcher les gens de s'allonger à cet endroit-là.
D'accord, ça a été demandé par les gens du quartier?
Ah, bah, vous m'en demandez trop alors. D'accord. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est ça.
Les sans-domicile fixe, quand ils sont là, on ne les regarde pas. Quand on les regarde, c'est pour les chasser. Je m'appelle Akouche Abdelrani, du comité des sans-logis. Un matin, surprise, j'arrive ici. Et je trouve c'est cette je peux pas appeler ça une beauté, cette horreur qui est là, ces boules qui n'ont aucune signification, pour empêcher ne serait-ce que les sondes de missiles fixes de s'asseoir dessus.
Où est-ce qu'on est ici en fait, Abdel ?
On est à la station de métro exactement Richard Lenoir, où il y a un centre d'hébergement d'urgence géré par le SAMU social. Cet endroit, il servait à quelques son domicile fixe qui venait dans le but d'être hébergé, de s'abriter quand il pleuvait, quand il faisait froid ou quand il y a des grosses chaleurs aussi. Parce qu'il y a l'ombre, il y a le toit pour se couvrir.
Donc en fait, cet endroit, c'est au coin de deux bâtiments. Et en fait, comme il y a une terrasse juste au-dessus, c'est abrité de la pluie et du soleil. Et en fait, il y avait eu un petit espace, une étendue, où pouvaient s'étendre les sans-abri.
Et ça ne dérange personne, parce que là, vous voyez, il n'y a aucune personne qui passe. C'est caché par des arbres. Et les gens prennent ce trottoir-là. Donc ici, ça gênait vraiment personne, surtout le soir. Il faut passer vers 19h. Là, il y a des bureaux et là, il y a un salon de coiffure. Tout est fermé, tout est calme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'habitation. Les habitations, ils sont de l'autre côté. Ils n'arrivent pas là. Mais moi, il avait encore une symbolique beaucoup plus importante. C'était le seul endroit par rapport à ce foyer où j'arrivais à créer une sorte de contact avec les personnes hébergées pour essayer de les sortir de ces centres d'hébergement et de les remettre sur le pied pour se battre par rapport au travail, par rapport à l'accès aux soins et par rapport à l'accès surtout au logement. Donc je venais souvent ici, il y avait 5-6 personnes, des fois des gens de passage, mais des fois il y avait réellement des réguliers. Et ces réguliers me tenaient beaucoup à cœur parce que j'avais commencé un travail avec eux. Parce que il faut voir que les sans-domicile fixe sont complètement déconnectés de la société. Et pour qu'ils retrouvent confiance, même pour un café, ils le refusent de le prendre. Donc pour créer un lien avec eux, il faut vraiment tous les jours venir les voir. Et petit à petit, même si vous arrivez à en arracher un ou deux de la rue, c'est une immense victoire. Et donc le travail que j'ai commencé, ou on a commencé à faire ici, ben il est perdu. Il est perdu parce que ces gens-là, quand je les vois, ils ne m'adressent plus la parole. Ils me disent « Ouais, tu nous as promis ça. » Le résultat, on a eu des boules. Non seulement ils ont eu des boules, et moi j'ai vraiment les boules.
Je me mets à la place des gens qui habitent ici. C'est vrai que par exemple pour ce coiffeur, on pourrait se dire que ce n'est pas très agréable d'avoir des gens qui restent là, peut-être alcoolisés toute la journée.
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je comprends les gens qui ne veulent pas de personnes en bas de chez eux. Je le comprends. Mais pourquoi, au lieu de passer du temps à construire ces machins, ces boules ici, ils n'ont pas pris les personnes et leur trouver réellement une solution? C'est ça qui me pose problème. Et je n'ai pas vu l'intérêt de la mairie ou de la préfecture ou de l'État, tout simplement, d'installer ces boules pour éloigner les... On n'essaie pas de régler le problème, mais il ne faut pas qu'ils soient visibles. Que ces personnes, moi, je les vois tous les jours ici encore. Et ça me révolte. Il n'y a pas d'autre terme, ça me révolte. Combien d'argent a été dépensé sur ces trucs affreux, là, ces boules que je n'arrive même pas à leur donner un nom? Alors qu'on avait construit là-bas juste une sorte de... Un abri vraiment mesquin, il coûterait peut-être 20 fois moins cher que cette bêtise-là qu'ils ont fait là. Parce que les gens, ils les ont dégagés, certes, d'ici, mais ils sont juste à côté. Voilà. Et si on ne leur tend pas la main, on est complice de ça. Et je refuse d'être complice de cet argent qui est dépensé pour des choses qui ne valent pas la peine, mais non, il ne faut pas dépenser pour l'humain. Et il n'est pas capable de gagner, il faut l'écarter de la société. Et moi, je refuse ce monde où une personne a des difficultés, on l'écarte. Au contraire, c'est quand une personne a des difficultés, c'est là qu'on doit réagir, lui apporter l'aide dont il a besoin. Sinon, on n'est pas des humains.
microscopie@rfi.fr
Daniel Terrol, vous avez commencé en 1990 à arpenter les villes, les centres-villes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les collectivités publiques, les collectivités territoriales ont une stratégie pour faire fuir les pauvres de ces espaces ?
Oui, d'abord parce que on peut penser qu'il y a une stratégie et puis elle existe. On la trouve très facilement même. Simplement, dans les années 93-95, il y avait quelques rares aménagements dissuasifs. Hein, je pense à Alors, l'enquête que j'avais fait, j'avais trouvé, bon, on nous avait signalé, les SDF nous avaient signalé des plots qui avaient été implantés sur le trottoir place Gambetta, mais la mairie de Paris, monsieur Tibéri, là, les avait fait enlever pour un problème de droit, puisque la banque qui les avait fait installer n'était pas propriétaire du trottoir, et donc la mairie les a enlevés. C'était pas par souci humanitaire du tout. J'avais repéré quelques bancs à structure, pas à structure discontinue, mais je dirais, sans appui, avec une conception qui empêchait qu'on puisse s'allonger dessus, notamment deux bancs au carrefour de la Croix-Rouge, à Paris, puis quelques-uns, mais il n'y avait pas d'aménagement plus systématique que ça. Or, en fait, entre 95 et, on pourrait dire, dans une période de 12 ans, quoi, à peu près, on assistait à la mise en place de stratégies.
Donc ça date de 1995 pour vous, en gros, ces années-là, c'est le début d'une volonté de chasser.
C'est le début d'une volonté, peut-être pas de chasser, c'est un peu fort, je dirais d'éloigner d'un certain nombre de lieux, par anticipation de leur présence, un certain nombre de personnes qu'on ne veut pas voir stationner dans ces lieux. La RATP, c'est 1991, je crois, que datent les travaux de la cellule design pour élaborer, concevoir des sièges indétournables par les indésirables, hein, c'est dit dans le texte même.
Indétournable, ça veut dire qu'on ne peut pas s'endormir dessus.
On ne peut pas détourner pour s'allonger, voilà, c'est ça. Ce qui nous vaudra par la suite, dans le cadre de la rénovation des stations pour notre plus grand confort et la plus grande sécurité, la mise en place des appuis chiatiques ou miséricorde, des deux barres, là, à peu près à 85 cm du sol, et des choix de disparition de sièges ou de limitation du nombre de sièges qui vont être des sièges de plus en plus individuels. Alors, oui, il y a une stratégie, hein, puisque cette stratégie, elle fait partie même d'un cadre, on pourrait dire juridique, hein, qui est celui des contrats locaux de sécurité. Hein. Et dans le cadre des contrats locaux de sécurité, il y a une forme de représentation, je dirais, qui s'est mise à polluer, à mon sens, hein, ça c'est un jugement de valeur, mais qui a déferlé complètement, qui est la logique de prévention situationnelle qui nous vient des États-Unis, qui est d'alerter à travers les responsables de l'urbanisme et de l'aménagement, d'alerter ces personnes de manière à concevoir des espaces qui soient déjà précontraints vis-à-vis des types de populations qu'on ne veut pas avoir. Alors, ça va aller du financement des aménagements de dessous d'autoroutes urbaines, je pense à la A86 quand elle arrive à Saint-Denis dans le quartier Pleyel. Il y a eu deux aménagements successifs, un premier avec des galets pris dans le béton pour empêcher le stationnement de caravanes ou l'habitat sauvage de la part de son domicile fixe. Mais comme apparemment ce premier aménagement posait des problèmes de nettoyage, difficile, puisqu'il était difficile de nettoyer entre les pavés avec des machines, etc., il y a eu un deuxième aménagement beaucoup plus raffiné qu'on peut voir, qui est complètement minéral, avec des petits pavés, avec des petits monticules mis en place. Enfin, un aménagement paysager dont je serais curieux d'avoir savoir combien il a coûté pour aménager un lieu qui ne sert à rien.
Vous parlez de raffinement, c'est ça qui est étonnant, ce que disaient les gens dans ce reportage. D'abord, ils ne savaient pas à quoi servaient ces objets qui étaient installés sur la voie publique, et certains s'interrogeaient de savoir si ce n'était pas une sculpture. Donc il y a une volonté quand même de masquer cette stratégie.
Oui, il y a une volonté de masquer par l'esthétique. Alors, bon, l'esthétique, ça, c'est un emballage, hein, on pourrait dire. Bien évident que depuis les premiers bancs antérieurs, là, qu'on avait vus, les bancs qui étaient initialement installés en bois avec trois lattes et puis un dossier avec deux lattes, avec les piétements en fonte, sur lesquels un salon de mairie ont fait poser des taquets perpendiculaires de 15 cm de haut pour empêcher que les gens puissent s'allonger, où là on voit manifestement une modification. On a eu une étape suivante qui a été la disparition pure et simple des bancs, et dans une étape ultérieure, on a réintroduit des bancs, mais avec qui ont été conçus à travers un cahier des charges tout à fait particulier, qui était d'être indétournable, c'est-à-dire des bancs à structure discontinue.
C'est-à-dire que quand une mairie passe un appel d'offres auprès d'une entreprise qui fabrique du mobilier urbain, dans cet appel d'offres, il est mentionné que le mobilier doit être indétournable par sans domicile fixe, comme vous dites ?
Je pense que ça fonctionne dans les deux sens. Je pense que dans le cas des contrats locaux de sécurité, il y a en effet des recommandations qui sont faites dans ce sens-là, très nettement, puisqu'on a sous les yeux celui de la ville de Lyon, la cellule de coordination, qui a pondu un document tout à fait explicite là-dessus, qu'on n'a pas le temps de détailler aujourd'hui, mais qui est tout à fait remarquable en la matière. Par contre, ce que je pense, c'est que dans le cadre des concepteurs même, ou des entreprises qui fabrique le mobilier urbain. Il y a des propositions qui sont faites, hein. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là.
Quelles sont les stratégies les plus utilisées pour justement empêcher le stationnement de ceux qu'on appelle les indésirables?
La stratégie, au terme de l'étude que j'ai faite, moi, ça serait de ramener sous l'œil des caméras, hein, de surveillance, qui vont se multiplier de plus en plus, puisqu'il y en a prévu une installation de 3 millions, je pense, et puis vous avez consacré un sujet à ceci la semaine prochaine, c'est ça?
Exactement.
Et de ramener sous l'œil des caméras et de la surveillance urbaine des populations qui jusque-là essayaient de s'installer dans des interstices urbains, c'est-à-dire soit les petites zones de friche qui pouvaient exister, soit les immeubles qui étaient abandonnés et qui pouvaient être squattés, soit des zones qui étaient entre le public et le privé. Ceci dit, il faut remarquer que depuis 1968, il y a eu une radicalisation des espaces entre espace public et espace privé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des digicodes partout. Fini de pouvoir rentrer sous un porche pour s'abriter. On ne peut le faire que si on a le numéro de code pour rentrer. Donc, la rue est devenue un espace strictement public et il y a une tension de plus en plus importante qui est due aussi à l'élévation, on pourrait dire, du prix de l'immobilier, hein, avec la nécessité de construire de plus en plus vite. Donc, on va abattre les immeubles condamnés de plus en plus vite. Il y aura de moins en moins de squats possibles. Les friches, pareil, vont être loties de plus en plus rapidement. Et donc, toute cette population de citoyens, mais qui sont rarement des citoyens consommateurs, de par le statut économique qu'elles ont, hein, de vie à la marge de l'économie.
Parce que à chaque fois, c'est ce que vous détaillez, hein, dans une des publications que vous avez fait sur ce sujet, mais vous dites que c'est toujours présenté d'abord comme un moyen d'aider ces populations. Il y a le principe de la bonne conscience qui est mis en avant.
Bien sûr, mais ça... Ceci dit, bon, c'est quand même difficile, je trouve, quand on arrive à une étape suivante, parce que l'étape dont nous parlons, c'est une étape complètement hypocrite, parce que les usagers eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Il faut vivre à la rue ou se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui vit à la rue, qui est obligé de détourner un certain nombre d'espaces pour se rendre compte de ces aménagements.
Hein. Comment est-ce que vous procédez vous les mesurez, les bancs, dans vos études?
Ah ben oui. Ma pratique de terrain fait que je les photographie, d'une part, je les mesure. Alors, j'ai toujours un petit mètre de couturière pour mesurer la longueur, la hauteur, la largeur. Et c'est souvent très intéressant parce que maintenant, il y a une conception, il y a des bancs qui sont conçus comme les bancs anciens en fonte et en bois et qui, en fait, quand on les mesure, on s'aperçoit que l'assise a été réduite. Les bords ont été arrondis et que si on s'allonge pour le tester,
on bascule
d'un côté ou de l'autre. Or, en fait, le banc offre toutes les apparences du banc normal.
Hein. Vous essayez, par exemple, de pénétrer de nuit dans un square pour voir si vous pouvez vous y installer?
Alors, c'est même pas utile de pénétrer de nuit dans un square, puisque là, généralement, les mairies, enfin, pour ce qui était pour un temps la mairie de Paris, du moins, hein, dans les périodes estivales ou printanières, surarrosent les parquets jardins de façon à...
Pour les rendre plus verts?
Voilà, pour les rendre surtout plus humides de manière nocturne et empêcher que les personnes puissent aller s'allonger, sauf au péril de se tremper et de s'enrhumer.
Bon, donc, d'après vous, c'est une stratégie clairement assumée?
C'est une stratégie qui peut ne pas être présentée comme ça, qui peut être présentée pour, en effet, le bienfait des plantes. Hein. De la même façon, je veux dire, quand vous avez un particulier qui appelle le 115, qui est le numéro d'appel du SAMU social, parce qu'il s'inquiète sur l'état d'un SDF qui est en bas de chez lui, je veux dire, qu'est-ce qui nous permet de penser que c'est par charité chrétienne, par solidarité républicaine, ou simplement parce que cette personne le dérange et que à ce moment-là, il fait jouer au SAMU social le rôle de nettoyeur de la voirie, hein. Donc, je veux dire, c'est difficile de le savoir. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des appels au 115 soient motivés par l'intérêt que portent nos concitoyens à la santé des SDF.
Est-ce que vous pensez que ce phénomène, il est inéluctable, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des interstices qui peuvent... Est-ce que, alors, pour reprendre l'exemple de ces parcs qui sont ultra-arrosés, est-ce que le Grenelle de l'environnement qui se déroule en ce moment dans le cadre des économies d'eau de la ville de Paris peut éviter qu'il noie les parcs et squares la nuit?
Bon, de la même façon, je veux dire, si on n'arrose pas, on peut utiliser des plantes dissuasives. Je veux dire, vous mettez des haies de piracanta, vous mettez des haies de citronniers qui ont des épines absolument remarquables, et vous arrivez à une interdiction d'usage de l'espace qui est connue. Bon, on travaille aussi là-dessus, hein, sur le plan botanique, essayer de voir comment, justement, sous l'apparence esthétique des espaces verts, il peut se cacher aussi des mesures de prévention situationnelle. Hein.
On verra ça dans la deuxième partie de l'émission, de voir justement, et puis d'essayer de voir dans quelle mesure, à votre avis, ces évolutions qui sont à la marge, on voit les campements qui se multiplient au bord du périphérique, sont des changements plus radicaux de la société dans laquelle on vit. Pour l'instant, je vous propose de retrouver les infos du monde sur RFI, et nous, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.
Microscopie à suivre.